Entre 10 et 15, sur les 3 heures, l'homme avec qui je vais déjà déjeuner le matin m'a fait appeler voulant prendre l'air. Il a essayé de marcher dans le bois, mais l'air lui a paru trop vif. Il s'est dirigé alors vers le grand maréchal chez qui il est entré et est demeuré assez longtemps assis dans une fauteuil où il semblait comme absorbé. Sa maigreur, la teinte de son visage, un affaiblissement visible nous ont frappés. Nous en avions tous les cœurs navrés. En traversant le roi, il avait jeté les yeux sur les fortifications dont on nous entoure. Il avait ri de pitié de tous ses travaux. On avait déshonoré nos alentour, disait-il, en élevant l'espèce de gazon qui s'y trouvait pour en faire de misérables revêtements inutiles et ridicules. En effet, puis près de 2 mois, le gouverneur ne cesse de réunir le terrain autour de nous. Il creuse des fossés, élève des parapets, plante des palissades. Il nous a tout à fait cernés dans l'angoisse. Il fait en ce moment des l'écurie ou une véritable redoute sans qu'on puisse deviner aucun avantage en équivalent des sommes et des soins qu'elle aura coûté. Aussi, ces travaux excitent-ils tour à tour la mauvaise humeur et le rire des soldats et des Chinois qui sont employés. Ils n'appelent plus Longwood et son écurie que le Fort Hudson et le Fort Lowe. Et l'empereur est revenu sur le frère ridicule de Sir Hudson Lowe qu'on nous a assuré se réveiller parfois un sursaut pour rêver à de nouveaux moyens de sécurité. Assurément, disait l'empereur, cela tient de la folie et qui n'est doit-il à son aise, qui ne nous laisse-t-il tranquille? Comment n'a-t-il pas l'esprit de juger que la force des localités ici est bien supérieure encore à toutes ces terreurs paniques? Sire, a repris quelqu'un, c'est qu'ils se souviendront de Capri où, avec 2000 hommes, 30 pièces de canon et perchés dans les noeuds, il faut enlever par 200 Français qui conduisaient le brave Lamarque, lequel ne peut pénétrer jusque lui qu'à l'aide d'une triple escalade. Eh bien, a observé l'empereur, l'eau se montre meilleur geôlier que bon général. La santé de mon fils depuis quelque temps m'étonnait des plus vives inquiétudes. Ses souffrances étaient tournées en palpitations violentes qui amenaient des évanouissements. Elle le forçait de se relever la nuit pour marcher ou prendre quelques position particulière. Les auteurs, au mieux, craignaient d'entrevoir tous les symptômes d'un anévrisme et d'un péril imminent. Je fais prier le docteur militaire en chef Baxter de venir se joindre au docteur au mieux pour une consultation afin de heureusement résultat un peu me tranquilliser. Il était loin de présenter rien d'alarmant. Dans les causeries du jeu, l'empereur est revenu encore à Madame Steyer, sur lesquelles il n'a rien dit de neuf. Seulement, il a parlé cette fois de nouvelles lettres vues par la police et dont Madame Récamier est une prince de Prusse faisant tous les frais. Ces lettres, disait l'empereur, contenant la preuve non équivoque de tout l'empire des champs de Madame Récamier, et du lieu pris auquel le prince les élevait, car elle ne renfermait en rien moins que des offres ou des promesses de mariage de sa part. Et voici le nœud de cette affaire. La belle Madame Récamier, dont la bonne réputation a eu le rare privilège de traverser sans injure longtemps difficile, s'est trouvée auprès de Madame de Steyer, à laquelle elle s'était héroïquement dévoué quand au des princes des Prusses fait prisonnier à Eylau. Ils se rendent en Italie par la permission de Napoléon, descendent au château de Coppet avec l'intention de s'y reposer seulement quelques heures. Mais il fut retenu tout l'été par les charmes qu'il rencontra, celle qui s'y était exilée auprès de son ami et les jeunes princes se regardant tous deux comme des victimes de Napoléon. Une haine commune commença peut-être leur intérêt mutuel, touché d'une vive passion. Le prince marié, les obstacles qui lui opposaient son rang, conçut la pensée d'épouser l'ami de Madame de Staël et le confia à celle-ci dont l'imagination poétique saisit avidement un projet qui pouvait répandre sur Coppet un éclat romanesque, bien que le prince fût appelé Abélin. L'absence n'altéra point ses sentiments. Il n'en poursuivit pas moins avec ardeur son projet favori. Mais soit préjugé catholique contre le divorce, soit générosité naturelle, Madame Récamier se refusa constamment à cette élévation inattendue. C'est à cette circonstance du reste qu'on doit le tableau de Corinne, qui passe pour une des créations les plus originales du pinceau de Gérard. Les princes lui ayant commandé pour faire hommage à celle qui avait si profondément coupé ses pensées. Mais puisque je suis revenu à Madame de Staël, je dirai que la publication des volumes précédents m'ayant valu la visite et les observations des quelques personnes qui lui sont fort attachées, de ses plus intimes moments assurés qu'on lui avait prêté des expressions contre Napoléon qui lui étaient absolument étrangères, spécialement celles des Robespierre à cheval. Qu'elles pouvaient oui. Peut elle en toute sûreté de conscience se disant d'elle bien plus aise ajoutée que Madame de Staël, elle se montrait parfois dans la conversation privée bien plus favorable que ne le témoignant ses écrits toujours aiguillonnés. Effrayé en convenir par le ressentiment et le dépit, l'une de ces personnes me disait qu'il avait été vraiment précieux peu et de dire dans le mémorial que Napoléon à Sainte-Hélène avait comparé Madame de Staël, elle, tout à la fois à Armide et à Chlorine, parce qu'elle avait entendu Madame de Staël autant de son enthousiasme. Comparé de son côté, le jeune général de l'armée d'Italie, tout à la fois à Scipion et à Tancrède, à Lyon, disait-elle, les vertus simples de l'une aux faits brillants de l'autre. Après dîner, l'empereur ayant fait venir ici de son favori, il nous a lu les plus beaux morceaux d'Iphigénie, de Mithridate et de Vajacé. Bien que Racine accompli des chefs d'œuvre en eux-mêmes, a-t-il dit en finissant, il y a répondu néanmoins un perpétuel fadeur, un éternel amour, et son ton doucereux, ce fastidieux entourage, mais ce n'était pas précisément sa faute, ajoutait-il, c'était la vice et les mœurs du temps, l'amour alors. Et plus tard encore était toute l'affaire de la vie de chacun. C'est toujours le lot des sociétés oisives, observait-il. Pour nous, nous en avons été brutalement détournés par la révolution. Seconde affaire, chemin faisant, il avait condamné aussi tout le fameux plan de campagne de Mithridate. Il pouvait être beau comme récit, disait-il. Mais il n'avait point de sens comme conception.